Nous avions parlé la dernière fois du problème du mal en éthique religieuse. C'est sûr que le problème du mal, pour nous, prend une physionomie toute différente avec le Christ, qui a porté sur lui toute l'iniquité du monde. Et, au fond, le mal en éthique religieuse reste comme, on ne peut pas dire, un mystère négatif. Parce que le mal n'est pas, en éthique religieuse, reste comme un certain absolu qu'on ne domine pas. En éthique religieuse, je ne peux pas parler du péché originel. Le péché originel, c'est une donnée de foi. Je peux seulement parler de la faiblesse des hommes. Et étant donné cette faiblesse des hommes, la plupart du temps, le mal est premier. Et il demeure comme quelque chose que je ne peux pas dépasser. Le péché, je peux le comprendre par rapport à Dieu, puisque en éthique religieuse, je reconnais qu'il y a une loi naturelle entre le bien et le mal. Mais il y a comme une espèce de poids du mal et surtout ce fait que le mal s'additionne tandis que le bien ne s'additionne pas. C'est, je crois, quelque chose qui est toujours très important à comprendre cela. Parce que les hommes qui regardent tout sous le point de vue de la manifestation, de communiquer aux hommes ce qu'ils savent de bien et de mal. Les gens de la télévision, par exemple, les gens journalistes qui veulent renseigner les hommes. Le mal est visible et donc peut-être non pas photographié, mais les conséquences du mal peuvent être diffusées, tandis que les conséquences du bien, c'est beaucoup plus difficile à saisir. Un monde qui vit de la télévision, un monde qui vit comme le nôtre, quoi, des renseignements les plus forts que nous avons sur tous les pays. Qu'est-ce qui se communique le mieux? C'est le mal, plutôt que le bien. Le bien est qualitatif, il est personnel, et il ne se communique pas toujours. Quand on fait une bonne œuvre, quand on prie, on n'a pas comme souci dominant que ce soit connu par les hommes. C'est très curieux que le point de vue de la finalité, on le porte intérieurement. La finalité, c'est un secret. L'amour reste un secret. Un secret dans notre cœur. De sorte que ça ne se communique pas spontanément. Tandis que le mal se voit, les conséquences du mal. Les conséquences du mal ne peuvent pas se cacher. Donc, un monde qui vit de plus en plus sur les manifestations, tout ce qui peut se communiquer, les manifestations, sera un monde qui, toujours, montrera beaucoup plus le mal que le bien. Et par le fait même, augmentera le désespoir des hommes. Ça, c'est très important à voir et à noter. Notre monde est un monde où le mal est beaucoup plus facile à communiquer. Il y a toujours du tragique dans le mal. Il y a toujours quelque chose d'un déséquilibre de force. Il y a le faible qui est battu, le faible qui est écrasé. Ça se manifeste. Alors, on peut beaucoup plus manifester le mal que le bien. C'est un fait. Les journaux qui se vendent le plus, ce sont les journaux qui manifestent le plus le péché. Ça se vend plus et ça se propage plus. On m'a donné des chiffres une fois, mais je n'ai pas retenu de la mémoire. Mais c'est un fait. Le mal a une espèce de pouvoir de manifestation. On ne se cache plus aujourd'hui dans notre monde. Le bien se fait sans bruit, sans manifestation. Alors, c'est très curieux de voir cela, que plus on regarde l'aspect extérieur des événements et de la vie, plus on propage le mal et le bien se cache. Le bien se cache, il est silencieux le bien, ce serait plus juste de dire ça. Le bien est silencieux et le mal fait du bruit. Alors parce qu'il est silencieux, on le laisse tranquille. Autrement dit, on a la même chose. La vérité est très difficile à se manifester et à se propager. Tandis que l'erreur est toujours à base imaginaire. Et la vérité, c'est justement le dépassement de l'imagination. Et le monde de la manifestation est lié à l'imaginaire. C'est net. Et c'est pour cela que en éthique religieuse, on devra lutter contre une manifestation du mal, du péché, qui se fait beaucoup plus intensément que la manifestation du bien, qui reste cachée, qui reste silencieuse. Et en éthique religieuse, la constatation du péché est très manifeste comme conséquence, et il n'y a rien qui peut l'arrêter, parce que de fait, l'homme pécheur, l'homme dans ses faiblesses, est beaucoup plus répandu que l'homme dans sa recherche de vérité. Si on regarde que l'éthique religieuse, autrement dit, les fragilités de l'homme, les faiblesses de l'homme, le mensonge de l'homme, les crimes de l'homme, tout le mal. Et domine sur l'homme quand, justement, il n'y a pas le point de vue chrétien et que je suis en face de l'homme avec ses propres ressources. Plus l'homme domine, plus le mal augmente, autrement dit. Et c'est un fait, ça. Plus le mal, plus l'homme domine, plus l'homme est tout puissant, plus l'homme peut dominer tout, le mal est plus puissant. Et surtout, il se manifeste plus, il se propage plus, et par le fait même, il entraîne le mal. La manifestation du mal est une chose mauvaise, parce qu'elle appelle le mal. Une espèce de fausse prédication. Une anti-prédication. Et ceci, en éthique religieuse, ce qui va dominer, c'est le désespoir. L'homme est mauvais. L'homme est pécheur. L'homme ne peut pas arriver à lui-même à dominer ses passions. Donc, ce qui se manifeste le plus, c'est le péché, ce sont les passions. Parce que l'homme a un poids un poids malheureux en lui, un poids de misère. Autrement dit, dans une éthique religieuse, puisque nous ne pouvons pas parler du péché originel. Le péché originel n'est pas connu. Il est connu que dans la foi. Or, pour nous, le péché originel explique cette propension vers le mal, cette propension terrible vers le point de vue de la jalousie. Et notre regard sur l'homme, sur la nature humaine, notre nature n'est pas mauvaise, elle est bonne, mais elle est constamment mise à l'épreuve par cette propension vers l'orgueil, vers la domination. Et plus on est puissant, plus ceci domine. Vous voyez ? Alors là, je me pose, moi, un problème, qui est le problème de la psychologie. La psychologie, comme science, elle n'est pas une science rigoureuse, mais elle manœuvre comme une science. Elle essaie de trouver des lois. La psychologie ne fait pas la distinction entre la nature et la nature telle qu'elle est avec le péché originel. L'homme que regarde le psychologue, c'est l'homme qui est forcément dans sa nature, il est blessé. Chacun de nous, nous portons une nature humaine et nous savons qu'il y a un état particulier de cette nature humaine qui est l'état du pécheur. Et nous essayons de distinguer ce qu'il y a de bon dans notre nature humaine et ce qui est conséquence du péché. Toute direction spirituelle consiste à faire ce partage entre ce qu'il y a de vrai dans la nature, ce qu'il y a de bon dans la nature, et ce qu'il y a de mauvais en raison des conséquences du péché. L'épître de Saint Jean nous aide à bien distinguer les deux. Et l'épître de Saint Jean s'adresse à l'homme tel qu'il est. L'homme tel qu'il est un homme qui porte les conséquences du péché. Il y a en nous, en chacun d'entre nous, les conséquences du péché originel. Et donc, il y a en chacun d'entre nous un déséquilibre foncier qui vient des conséquences du péché originel. Et notre nature lutte contre ces conséquences du péché. Autrement dit, les conséquences du péché ont en nous un poids très grand. Et la nature sans la grâce est vaincue. Elle tend vers le mal, conséquence du péché. Donc, le psychologue doit constater l'homme tel qu'il est maintenant, sans faire la distinction entre la nature et les conséquences du péché. Alors, nous devons toujours, dans notre charité fraternelle, faire la distinction entre les deux. Entre la nature qui vient de Dieu et notre nature, elle est notre âme et notre corps. Et puis les conséquences du péché. Et puis au point de vue surnaturel, nous distinguons la grâce. Et nous savons que la grâce est reçue dans notre nature, pas dans notre état de pécheur. Et que la grâce va augmenter en nous cette dualité, ce combat intérieur. Le combat intérieur, il existe forcément. C'est les conséquences du péché. Pour un psychologue, qu'est-ce qu'il voit ? Peut-il faire, au point de vue psychologique, la distinction entre ce qui vient de la nature et ce qui est conséquence du péché? Pour lui, est naturel tout ce qui est spontané, il peut arriver à voir qu'il y a certaines activités qui empêchent l'homme de se développer, qui sont donc mauvaises. Mais il ne voit comme mauvais, puisque le péché, il ne le voit pas. Il ne voit comme mauvais que ce qui porte vers quelque chose de négatif et qui empêche l'homme de se développer. Donc, pour lui, le point de vue qui lui permet de voir le bon et le mauvais, c'est le développement de l'individu, le développement de la personne humaine. Tout ce qui va dans la ligne du développement est bon. Et mauvais, ce qui arrête le développement. Et la lutte, par le fait même, c'est pas entre le bien et le mal, c'est entre ce qui est pour vous un développement, pour l'individu, un développement normal, et ce qui est trop pesant pour l'homme. Le psychologue comme tel ne peut pas comprendre, par exemple, le point de vue des vertus chrétiennes, la chasteté. Il en verra simplement que ce soit selon des normes prudentielles, ne vous livrez pas à un trop grand caprice sexuel, parce que ça vous nuira. Mais en tant que c'est un développement naturel, il est naturel, cela n'est pas mauvais. Oui, il faut voir avec beaucoup de netteté ça. C'est très important. C'est que l'éthique chrétienne repose sur l'éthique religieuse et ne repose pas sur l'éthique de facto. On regarde ce qui est normal à l'homme pécheur, parce que nous sommes un homme pécheur naturellement, chacun d'entre nous. Le péché ici plus ou moins développé, mais nous sommes un homme pécheur. Or, ce n'est pas l'homme pécheur qui est ma norme. C'est l'homme bon. C'est l'homme qui atteint sa finalité. Et sa finalité, c'est la découverte de Dieu. Tandis que au point de vue psychologique, vous ne prenez pas comme norme normale l'homme qui a découvert Dieu. Vous prenez l'homme équilibré. Si c'est pas mauvais pour vous, si c'est pas exagéré, oui, c'est bon. Ça fait partie de votre développement normal. Alors quand il dit normal, faisons attention, c'est normal pour l'homme pécheur. C'est pas naturel. Il y a là un problème qui, je crois, qu'on doit saisir. Le point de vue religieux n'est pas ce qu'on constate dans l'homme pécheur. Le point de vue religieux est ce qu'on constate l'aspect naturel de l'homme. Et cet aspect naturel de l'homme n'a jamais existé uniquement naturel. L'homme est ou un homme qui, dont le grand-père a commis des fautes, notre grand-père Adam. Dans la foi, nous savons ça. Quel péché originel. Et qu'il y a des conséquences du péché originel. Alors, nous avons été baptisés. Alors, en tant que nous avons été baptisés, notre grand-père est directement notre père. Puisque c'est la grâce qui nous est donnée par le Christ. Alors, nous savons que les lignes du combat pour l'homme religieux est donc différente qu'un point de vue purement psychologique. Et ça, je crois que c'est très important. C'est très important parce que il faut comprendre que l'homme vertu, l'homme religieux, c'est le fondement matériel pour l'homme chrétien. La grâce présuppose la nature, et elle présuppose la nature religieuse. Or, la grâce présuppose la nature d'un homme pécheur. Et donc, la grâce va augmenter en moi les luttes. C'est normal que le chrétien ait une vision de lutte plus grande que le pur psychologue. Parce que le psychologue ne fait pas la distinction entre la nature de l'homme et les conséquences du péché originel. Les conséquences du péché originel sont naturelles. Si j'emploie naturel comme en sens, tout ce qui est à partir de ma naissance. Et naturel, tout ce qui dépend de tout ce qui est dès le point de départ. Or, tout ce qui est le point de départ, c'est les conséquences du péché. Et pour ça, il faut discerner nature, surnature, nature, conséquences du péché. Est-ce que l'éthique religieuse peut faire cette distinction ? Elle pourra, l'éthique religieuse d'un chrétien peut faire la distinction, mais pas d'un philosophe. Et ce qui montre bien que l'éthique religieuse, au fond, ne peut être vue que par un théologien. Que l'éthique religieuse ne peut pas être vue par un philosophe. Parce que le philosophe ignore le péché originel. Oui. Et nous devons faire, nous, cette critique. Ce n'est pas du tout pour supprimer l'éthique religieuse. Non, il faut la voir, l'éthique religieuse. Mais nous la voyons en tant que chrétien. Donc, en tant que théologien, je ne peux pas l'avoir au point de vue purement philosophique. Je dis ça parce que je sais que certains, ça pouvait les gêner. Et je suis d'accord qu'au point de vue purement humain, donc au point de vue philosophique purement, je ne peux pas faire l'éthique religieuse. Elle n'a jamais existé. Or, le philosophe part toujours de ce qui est. Qu'est-ce qui est ? Il existe un homme qui est descendant d'Adam et Ève. À la rigueur, le philosophe peut le dire, ça. Il peut dire qu'il y a eu un premier, forcément. Mais il ne sait pas comment ça s'est passé aussi. Au point de vue philosophique, je ne sais absolument pas quel a été le début de l'humanité. Donc, au point de vue philosophique, je ne peux pas parler du péché originel. C'est sûr. Bien que je constate qu'il y a des erreurs très grandes dans la vie humaine. Il y a un déséquilibre. Mais cet équilibre, je ne sais pas d'où il vient. Alors, il est quasi naturel. Parce que c'est pas commode de faire coexister ensemble un esprit et un animal. Mon corps fait que je suis semblable aux animaux. Mon corps, pris uniquement mon corps, je suis un animal très évolué. Sans doute, l'évolution se termine là, parce que je ne vois pas très bien, je ne constate pas. Après l'homme, qu'est-ce qu'il y aurait de supérieur ? Le philosophe, il peut considérer que l'homme, c'est l'achèvement. Alors, ce qu'il y a de supérieur, c'est le Parisien. Mais ça, c'est justement une bonne surprise qu'on fait à l'humanité. Mais c'est très important, ça, de toujours être attentif à ça quand on fait de la philosophie éthique. Parce que l'éthique, c'est de me regarder tel que je suis maintenant. Tel que je suis maintenant, il y a nature humaine, il y a conséquence du péché. Je ne suis pas immaculé. Il y a un chrétien qui compte sur la grâce du Christ, qui compte sur la grâce de l'Esprit-Saint. J'ai ces trois niveaux. Alors, si j'ai ces trois niveaux, je ne peux en parler de ces trois niveaux qu'au niveau chrétien. C'est sûr. Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, il ne parle pas du niveau chrétien. Et donc, il ne parle pas du péché originel. Donc, je ne peux parler qu'en tant que chrétien. Donc, mon éthique religieuse, vous comprenez, elle boite. Hein. Elle est à la fois philosophique et puis théologique. C'est vrai, ça. Je ne peux pas me regarder en tant que pur philosophe. C'est faux. Je ne me connais bien qu'en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, je vois que ma nature est abîmée par le péché. Alors, l'éthique religieuse existe, et il est bon de la faire, mais au fond, je fais toujours appel à quelque chose qui me vient de la théologie, puisque je fais la distinction entre ma nature humaine et l'état particulier dans lequel je suis en tant que pécheur. Et que si je ne regarde pas, je suis dans la psychologie. Et je vois les limites de la psychologie. Parce que la psychologie ne pourra pas, par elle-même, alors, quand on a un psychologue chrétien ou une psychologue chrétienne, elle va beaucoup plus loin. Parce qu'elle fait la distinction entre la nature et les conséquences du péché. Quand vous avez un psychologue qui ne croit pas du tout, il constate, alors, est naturel pour lui tout ce qui est en vous depuis votre naissance. Et donc, son jugement ne peut pas atteindre pratiquement ce que je dois faire. Parce que ce que je dois faire, je le fais en tant que chrétien. Et sur mon éducation, sur moi-même, je l'ai fait en tant que chrétien. Et en tant que chrétien, j'ai une exigence sur moi qui n'est plus naturelle. Alors, il peut me montrer mes tendances. Il faut que dans ces tendances, j'arrive à discerner ce qui est naturel et ce qui provient du péché, les conséquences du péché. J'ai une propension très nette de gourmandise vis-à-vis du chocolat. Quand le petit gosse a 6 ans, bon. En tant que chrétien, je vois que c'est une conséquence du péché originel. On a un déséquilibre entre notre nature sensible, notre corps, et la grâce qui me demande d'avoir une tempérance chrétienne. Et je vois bien qu'il faut lutter contre. Le psychologue dira, il ne faut pas en prendre de trop parce que tu seras malade. Donc il faut que tu fasses attention de ne pas prendre trop de choses qui te sont agréables parce que tu seras malade. Donc vous voyez le motif pour lequel on se corrige de cette propension au chocolat, c'est symbolique. Hein. Toute autre propension. Je lutte pour éviter un mal. Je ne lutte pas premièrement pour me redresser, me corriger, et laisser tomber toutes les séquelles du péché originel. Et si je vais plus loin, je lutte pour que la grâce puisse assumer et transformer ma sensibilité, mes passions. Vous voyez ? Alors, l'éducation présuppose, l'éducation est un art, ça présuppose la matière devant laquelle je suis. L'artiste, pédagogue, a comme matière ce petit individu dans lequel il y a beaucoup de choses particulières qu'il faut noter. Il faut distinguer nature, conséquence du péché, grâce. Si je ne distingue pas cela, je vais faire des erreurs monstrueuses. Parce qu'il faut que toute mon éducation, toute l'éducation chrétienne, développe les exigences de la grâce, qui sont des exigences surnaturelles que le psychologue ne peut pas voir. Oui, comment ce cours d'éthique doit me faire comprendre la situation très particulière. L'éthique, c'est quelque chose de concret et quelque chose qui doit être vu dans la finalité. Or, ma finalité est surnaturelle. Y a-t-il une finalité purement humaine ? Oui, il y en a une, parce que la nature humaine existe en moi et doit pouvoir comprendre la différence entre les exigences surnaturelles et les exigences naturelles. Et je dois voir que ma nature est abîmée par les conséquences du péché, qui viennent tout troubler. Et donc, si je reste uniquement au point de vue psychologique, au fond, je ne touche pas la réalité. Je touche les conséquences du péché sans distinguer les exigences de la nature et les conséquences du péché.